Ben, je pense qu'on est pas rendu loin d'être de là, mais encore une fois, il reste quand même des groupes qu'on essaie de prioriser par rapport à d'autres. C'est-à-dire que là, je sais pas si on parle juste d'AstraZeneca ou de la vaccination en général, mais pour la vaccination en général, je pense qu'il y a quand même un besoin d'aller prioriser les malades chroniques qui, eux, pourraient avoir des conséquences beaucoup plus fâcheuses pour ne pas que on les perde dans le lot, là, puis qu'ils arrivent pas à prendre leur rendez-vous pour être capables d'avoir leur vaccination. Pareil pour les travailleurs essentiels qui ne peuvent pas travailler en télétravail. C'est sûr qu'ils les ont pas tous mis, mais je pense que, tu sais, ils y vont étape par étape justement pour pas qu'il y ait un flot de personnes qui se présentent et que ceux qu'on voudrait vraiment voir être vaccinés n'arrivent pas à avoir un rendez-vous.
Oui. Mais là, les malades chroniques, depuis hier, peuvent se faire vacciner. Le personnel essentiel également peut prendre un rendez-vous pour aller se faire vacciner. Alors, eux autres, moi, il n'y a pas personne là qui remet ça en question. Mais mettons, une fois qu'on aura terminé le personnel essentiel, les travailleurs essentiels puis les malades chroniques, est-ce que ce serait envisageable de dire tous les vaccins réunis, là, on ouvre à la population en général. Est-ce qu'il y aurait une bonne raison pour ça?
Je pense que c'est là où on en est rendu. Là, tu sais, on est rendu à plus que 75% des 70 ans et plus qui sont vaccinés. On approche du 50-55%, je pense, pour les 60 ans et plus. Fait que oui, on est rendu là à ouvrir, je pense, à la population générale. Après ça, tu sais, c'est vraiment de la logistique, puis voir comment est-ce que le gouvernement du Québec veut faire ça. Mais effectivement, l'idée, c'est de combler les plages, puis de mettre d'utiliser les vaccins pour le plus de gens possible.
OK. Là, toujours dans cette entrevue, Mylène Drouin pose la question, donc la directrice de la Santé publique de Montréal a dit, bon, est-ce qu'on ouvre ou est-ce qu'on va davantage vers les jeunes? Est-ce qu'on pourrait décider plutôt que de descendre les groupes d'âge, là, donc 50 ans et plus, 45, 40, bon, y aller en ciblant les jeunes d'abord parce qu'actuellement, ils sont des vecteurs de transmission puis les écoles sont des foyers de propagation puis des foyers d'éclosion?
Ben, quand on parle de jeunes, on parle de 16 ans et plus, là, parce qu'en bas de ça, on n'a pas encore d'homologation pour aucun des vaccins. Puis le seul qui est homologué entre 16 et 18 ans, c'est Pfizer. Donc oui, on pourrait y aller avec des jeunes. En fait, il y a certaines provinces qui l'avaient fait. Il y a une province en Atlantique, si je me trompe. Je me rappelle pas si c'est l'île du Prince-Édouard ou... Non, c'est le Nouveau-Brunswick qui avait décidé de vacciner leur tranche de 16 à 29 ans au tout début parce que justement, c'était ceux qui transmettaient puis qui avaient le plus d'impact d'un point de vue limitation d'activité sociale. Et donc, il l'avait priorisé. Donc, c'est tout à fait possible de commencer par des plus jeunes. Tout est possible. C'est juste qu'il faut prendre cette décision-là qui sera prise au niveau, qui peut être prise au niveau régional ou au niveau provincial. Mais tout à fait. Je pense que ça fait partie des possibilités.
OK, mais quels sont les avantages de le faire et quels sont les désavantages? Parce que, Dr Quach, moi, si on décidait, mettons, là, on y va avec les 16, je sais pas moi, les 16-24 ou les 16-34, là, mettons. Mais mettons les 16-24, là, plus la clientèle d'âge scolaire. Bon, vous avez des gens de 40 ans et plus, là, ou de 30 ans et plus, qui vont dire, hey, wow, là, c'est supposé être à notre tour, là. C'était ça, le contrat social, là. On descendait, là, la pyramide des âges, là. On s'en allait pas direct aux plus jeunes, là. Ça susciterait tout un débat, là.
Ben, à chaque fois qu'on essaie de prioriser un groupe par rapport à un autre, ça ouvre un débat. Je veux dire, depuis le début de la pandémie, moi, je reçois des courriels pour me faire dire pourquoi lui puis pas moi. Puis pourquoi est-ce que pas deux doses à moi puis juste une dose pour que l'autre puisse avoir son autre dose? C'est comme ça depuis le début. C'est certain que quand on cible un groupe, ben, l'autre va dire, mais pourquoi pas moi? Alors, il faut qu'il y ait des raisons, il faut qu'il y ait une évaluation du risque versus bénéfice de prendre un groupe par rapport à un autre. Puis en même temps, moi, ce que j'avais compris, c'est qu'une fois qu'on arrivait en bas de 60 ans, le 18-59 était plus homogène là, que d'y aller par juste les 40, puis les 30, puis les 20. J'ai pas vu cette stratification-là par décennie, je vous dirais. Donc là, après ça, ça va être comme je vous le dis, là, il faut juste qu'il y ait une décision qui soit prise basée sur les meilleurs principes d'équité, d'éthique et d'acceptabilité possible pour ensuite le mettre en place. Mais je suis absolument pas contre la vaccination des jeunes. Au contraire, je pense que ça pourrait jouer un rôle dans la diminution de la transmission en communauté.
Bon, encore faut-il convaincre les jeunes? faire vacciner, parce que là, en France, puis je dis pas que la réalité française se plaque nécessairement sur la réalité québécoise, mais en France, vous avez à peu près 55 % des 18-24 ans, là, un petit peu plus que 50 % mettons, des 18-24 ou des 18-34 qui sont prêts à se faire vacciner. T'as beaucoup de jeunes qui trippent pas fort à l'idée de se faire vacciner, le Dr Quash. Et puis là, il va falloir les convaincre, eux autres, là.
Ben, c'est sûr, mais tu sais, 50% c'est mieux que zéro. Puis si jamais on met en place des mesures pour que qu'on soit capable d'avoir moins de restrictions si on est vacciné versus si on n'est pas vacciné, ça va évidemment les encourager. Puis bon, je prends comme exemple mon fils de 19 ans, qui est mon exemple parfait, là, qui a horreur des vaccins. Moi, quand il était petit, il hurlait pendant une heure avant d'aller chez le pédiatre parce qu'il savait qu'il allait avoir un vaccin. Puis j'y courais après pendant une heure dans la maison avant ça. Mais aujourd'hui, lui qui déteste encore les vaccins me dit « Maman, si tu me dis que demain matin, je peux aller me faire vacciner, là, je vais y aller. » Il dit « Je suis un travailleur essentiel, je suis en présentiel. » Il dit « Peux-tu me faire vacciner pour arrêter de porter mon masque tout le temps? » Alors déjà, lui aussi a commencé à avoir cette réflexion-là. Et je me dis que si lui, la pire moumoune de la planète par rapport au vaccin, est prêt à se faire vacciner, parce que ça fait 3 semaines que j'y en parle, c'est qu'il est tout à fait à l'aise avec ça. Je pense que ça va résonner auprès d'autres jeunes aussi. T'sais, on comprend tous, plus vieux inclus, qu'une fois qu'on est vacciné, il y a une protection, qu'éventuellement, quand on aura eu nos 2 doses, on pourra avoir des restrictions qui vont être beaucoup moins contraignantes. On regarde déjà ce que le CDC propose, où ils disent, tu sais, si vous êtes tout le monde vacciné à 2 doses, vous pouvez vous voir à l'intérieur. Tu sais, je pense que de voir cette lumière-là au bout du tunnel
va les amener.
Parce
qu'ils rêvent justement de retrouver le chum. Quand on va leur dire, si tu te fais vacciner, tu vas pouvoir retrouver tes amis, ça va devenir un argument convaincant, dites-vous. Maintenant, comment vous réagissez à la conclusion là, à laquelle en vient Santé Canada, à l'effet que le phénomène là, très rare des caillots sanguins pourrait effectivement être lié au vaccin AstraZeneca?
Ben, je vous dirais que l'Agence des médicaments en Europe, la semaine passée, avait dit la même chose, mais eux avaient dit qu'il y avait un lien de causal entre le vaccin et la complication très rare. Je pense qu'on est tous d'accord que ce vaccin-là, AstraZeneca, peut entraîner des complications de thrombose. Maintenant, dans ce qui est de l'analyse du risque versus bénéfice, là, il faut y aller de façon un peu plus précise et y aller par groupe d'âge. C'est-à-dire qu'il y a certains groupes d'âge qui bénéficient davantage du vaccin parce que le risque associé au vaccin étant très faible est contrebalancé par un risque très important de complications de la COVID et de décès. Cette analyse-là, plus fine, n'a peut-être pas été faite par Santé Canada et sera faite par le Comité consultatif national de l'immunisation et par l'Agence de santé publique du Canada. Et donc, une fois maintenant que Santé Canada a émis son rapport, nous, on va se pencher dessus, on se rend compte demain. Là, on attendait les conclusions de Santé Canada pour voir si on maintenait le niveau, la restriction d'âge à 55 ans ou si on baissait à 50, on montait à 60 ou on l'enlevait complètement. Là, bref, cette analyse-là est en cours, mais je pense que pour moi, le risque est très, 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 très faible. Il entraîne quand même des complications sévères et il faut donc mettre ça en équilibre avec le risque de maladie si on est pour attendre encore, mettons, 4 à 6 semaines avant d'avoir un vaccin ARN messager, par exemple, parce que les AstraZeneca, il y en a présentement, ils sont disponibles. Chez qui est-ce qu'on peut les utiliser versus le risque d'attendre un peu plus longtemps un vaccin ARN messager, tout en sachant qu'il faut que ce soit que l'AstraZeneca est donné dans un contexte de consentement libre et éclairé. Là. Moi, je force personne à l'avoir, mais je pense que pour certaines personnes, dans certains contextes, on a un avantage à prendre un vaccin plus précocement que d'attendre encore 4 à 6 semaines.
D'accord. Mais vous pourriez, dites-vous, le fameux comité sur l'immunisation là, que vous présidez, vous allez vous réunir demain, dites-vous, et vous allez évaluer ou réévaluer la recommandation. Pour le moment, on reste à 55 ans et plus pour le AstraZeneca, mais ça pourrait être modifié.
Tout à fait, parce que ce qu'on avait dit pour le 55 ans et plus, c'était une mesure intérimaire en attendant que Santé Canada complète son étude. Bon, ils l'ont maintenant complétée, donc on va faire le reste du petit bout de chemin qui nous reste à faire là, pour réévaluer le tout.
Et on parle d'une décision qui pourrait, ou une recommandation qui arriverait quand, à ce moment-là, de votre comité, là?
Ben, mettons qu'on l'a fait demain, là, parce que c'est le but, et à ce moment-là, elle deviendrait publique la semaine prochaine.
OK. Dernière question, Caroline Couache. Comment vous réagissez à la controverse autour du port du masque à l'extérieur? Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion? Parce que ça suscite une énorme levée de boucliers, résistance, questionnement, scepticisme.
Ouais, ben je comprends le questionnement parce qu'on s'est toujours dit que mieux valait être dehors que dedans parce qu'il y avait de la ventilation. Je pense que ce qui sous-tend cette demande-là de porter un masque si on est à moins de 2 mètres, c'est que les variants sont plus contagieux. Puis on essaie en fait de limiter les regroupements le plus possible. Mais en même temps, tu sais, il fait beau, là. Moi, je préférais que les gens soient dehors, essayer de rester le plus loin possible les uns des autres. Mais tu sais, quand on bouge, on n'est jamais capable de maintenir cette distance-là. C'est clair qu'il n'y a pas de données scientifiques claires qui appuient le plus de 2 mètres dehors quand il y a beaucoup de ventilation. Mais je pense que ce que le gouvernement nous dit, c'est qu'on est tellement dans une hausse de variants avec une transmissibilité haute que essayons de faire le plus possible pour limiter la transmission. Fait que moi, je me promène juste avec mon mari puis mon fils.
Et donc, vous n'avez pas besoin de le porter à ce moment-là?
C'est ça.
Bon. Oui. Dans le fond, c'est la ceinture et les bretelles. C'est un peu ça que vous dites, là.
C'est sûr. On essaie de limiter le plus possible la propagation pendant qu'on vaccine puis qu'on essaie de protéger le plus de monde possible. Parce que même si on reçoit notre vaccin aujourd'hui, on n'est pas protégé avant 2-3 semaines. Fait qu'on a encore cette période de temps-là où il faut couvrir et limiter le plus possible la propagation.
Caroline Couache, médecin, microbiologiste, infectiologue, pédiatre, épidémiologiste à Sainte-Justine. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir.
Merci, bonne journée.